VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Des tirs à l'arme lourdes entendus à Bouaké, à proximité du plus grand camp militaire de la deuxième ville de Côte d'Ivoire. D'après l'AFP, au moins deux commissariats de police ont été attaqués dans la deuxième ville. Ce matin, j'ai joint il y a un quart d'heure Rufine Koulibaly, une habitante de Bouaké, qui confirme l'agitation sur les militaires.
Bon, ça a commencé aux environs de 1h du matin. Ils sont passés à la préfecture de police et puis dans des commissariats. Donc actuellement, ils sont en train de tirer, ils sont en ville. Bon, on ne sait pas au juste c'est quelles revendications ils sont en train de faire. Donc tout le monde est rentré, tout le monde a fermé ses magasins. Tout est fermé au commerce, les entreprises, les banques, tout. Tout est fermé, les écoles aussi.
Alors qui tire justement dans les rues?
Bon, c'est les corps habillés là, c'est les militaires.
Ils viennent de quel camp de Bouaké?
Bon, à Bouaké, il y a plusieurs camps. Bon, on ne sait pas juste dans quel camp ils viennent. Puis il y a le 3e bataillon, il y a le camp commando. On avait dit que c'était les choses, les démobilisés. Après, on nous dit que non, il y a des militaires dedans. Donc tout le monde est chez lui, quoi. Donc on ne sait pas juste c'est quelles revendications ils sont en train de faire. Parce que, bon, Bouaké a vécu la crise. Donc c'est comme ça va commencer au début. On pensait que c'était une petite histoire. Puis bon, c'est devenu une grande histoire. Donc tout le monde est sûr qu'ils vivent. Chacun chez lui pour voir comment ça va se terminer.
Koulibaly Rufine, une habitante de Bouaké. Les militaires ont pris position à divers carrefours stratégiques de la ville et circulaient dans des véhicules de la police. Un des mutins a confié à l'AFP, sous couvert d'anonymat, qu'il s'agit, je cite, d'une mutinerie des ex-combattants intégrés dans l'armée qui réclament des primes de 5 millions de francs CFA plus une maison pour chacun. En Libye, après la défaite du groupe extrémiste État islamique dans son fief de Sète, les principales factions rivales de ce pays pétrolier se livrent une lutte d'influence sans merci, faisant planer la menace d'un conflit généralisé. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir. D'un côté, le gouvernement d'Union nationale, GNA, basé à Tripoli, est reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale installée dans l'Est qui contrôle une vaste partie de cette région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, interpelle la communauté internationale à changer de ton et de dimension d'action vis-à-vis du Burundi. C'est à la suite de la radiation mercredi de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, la plus ancienne du pays. Florent Gilles est le responsable du bureau Afrique de la FIDH.
Toutes les actions qui ont été prises par la communauté internationale n'ont pas été en mesure de changer la donne. C'est pour ça que maintenant, il faut peut-être aussi changer de ton et changer de dimension d'action et commencer à mettre une pression suffisante sur le gouvernement burundais pour pousser celui-ci à aller négocier. Sinon, on ne pourra intervenir que quand il sera trop tard.
Pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard, mais quand est-ce qu'il sera trop tard?
Il est déjà un peu tard. On aurait pu éviter beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, beaucoup de viols, beaucoup de tortures. Et chaque jour qui passe est un jour de trop. Difficile de dire le 20 janvier, il sera trop tard, évidemment. Mais attention à la catastrophe.
Florent Gilles, responsable du bureau Afrique à la FIDH. En RDC, le Front pour le respect de la Constitution, dont le parti phare est le MLC de Jean-Pierre Bemba, tient à diriger le Conseil de suivi de la transition. Il conditionne donc sa signature de l'accord politique du 31 décembre dernier à l'obtention de la gestion de cet organe que le compromis politique accorde à Étienne Tshisekedi, dont la famille politique va diriger le gouvernement jusqu'à l'élection. Eve Bazaïba est la chef de file du Front pour le respect de la Constitution.
Le rassemblement est venu nous visiter. Nous avons reçu non seulement la CENCO, l'ambassadeur de l'Union européenne et le rassemblement. Il y avait deux délégués du rassemblement, M. Martin Fayou, le député, et aussi M. Félix Tshisekedi, avec qui nous avons échangé. Nous avons fait voir clairement qu'il n'était pas question pour le rassemblement et diriger le gouvernement et de diriger l'organe du contrôle de mise en œuvre. Et je crois qu'ils nous ont compris et ils sont allés, nous allons poursuivre les discussions. Ils ont un choix à faire, les points de soit le gouvernement, soit les comités de suivi. Mais comme ils avaient déjà opté pour le gouvernement, ils ne peuvent pas être jugés partis. Est-ce que vous trouvez normal que le fils qui s'est fait dire premier ministre et son père est chargé des contrôles du gouvernement, des contrôles de la CENI, des contrôles de mise en œuvre? Ça se passe où?
Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, chef de file du Front pour le respect de la Constitution. Un casque bleu bangladais a été tué par des hommes armés dans le nord-ouest de la Centrafrique. Mardi a annoncé aujourd'hui la force de l'ONU à Bangui, la MINUSCA. La même journée, deux casques bleus marocains ont été tués dans le sud-est du pays par des hommes armés qui ont attaqué leur convoi, avait annoncé mercredi l'ONU, précisant que les auteurs de l'attaque s'étaient enfuis dans la brousse. Et toujours en RCA, c'est la consternation au lendemain de l'annonce de la justice française concernant l'enquête sur des cas de viol présumés sur mineurs par des soldats de Sangaris. La justice française dit cette semaine n'avoir pas trouvé de preuves pour de telles accusations. Freeman Tsipila fait le point à partir de Bangui.
L'annonce de la justice française a suscité de nombreuses réactions dans la capitale centrafricaine. Pour l'homme de la rue, la France n'a pas joué franc jeu dans cette affaire.
Dire qu'il n'y a pas de preuves, je crois que ça ne rendrait pas service à la communauté centrafricaine, aux familles centrafricaines qui ont vu leurs soeurs violées. Il faudrait que la France, qui est un état de droit, un état qui respecte la légalité, puisse approfondir les enquêtes encore davantage, rassembler les preuves, punir les auteurs.
Aujourd'hui, la justice française pense que tout ce qui a été mené comme enquête jusqu'à l'aboutissement, les informations ne sont pas avérées. Et je suis franchement désolé.
La justice française n'a pas très bien fait son travail. Elle cherche à couvrir seulement leur souveraineté, leur intérêt, leur personnalité.
Ça ne me surprend pas. Ça ne fait que me rappeler ce que les Français pensent de nous.
La société civile centrafricaine affirme ne pas partager ce point de vue sur l'absence d'éléments de preuve. L'avocat Barthélémy Mathias Mouroba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, propose que la victime soit entendue de nouveau.
Nous ne partageons pas malheureusement le point de vue de cette justice. Pour nous, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore des victimes qui sont à Bangui et qui attendent que la justice soit rendue. Les moyens doivent être mis à disposition pour permettre à cette victime-là de s'exprimer. Et c'est ça que nous sommes en train de déplorer. Et il fallait aussi que l'État centrafricain puisse s'impliquer dans cette affaire. Parce qu'il s'agit de l'exploitation des enfants centrafricains par des militaires, des sangaristes qui sont des Français qui viennent ici dans une autre mission et qui outrepassent leur mission pour faire n'importe quoi sur les petits-enfants de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter ça.
Pour Apollinaire Mbessa, député de Dédé Mokouba, dont la préfecture de la Mombéré-Kadéi, ce ne sont pas les preuves qui manquent.
C'est un grand étonnement pour moi d'écouter ces pareilles réactions. Parce que depuis que la force onusienne est chez nous ici, il y a un peu plus de 3 ans, force Sangaris, c'est surtout, nous avons toujours palpé de doigts les preuves. Même si on s'approche des services des droits de l'homme, toutes les associations, le groupe des femmes passées par là. Ce sujet n'est pas à nier, c'est bien une réalité.
Les autorités centrafricaines se réservent encore de tout commentaire. Présenté comme un succès par le ministère français de la Défense, l'opération Sangaris a quitté la Centrafrique fin octobre 2016 en laissant derrière elle plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, y compris sur des mineurs. Freeman Tsipila, Bangui, VOA Afrique.
Deux groupes de populations indigènes de la Namibie ont déposé devant un tribunal de New York un recours collectif contre l'Allemagne pour obtenir réparation d'un génocide présumé durant la période coloniale. Le recours dénonce la répression des soulèvements populaires par les autorités allemandes en 1904-1905 qui a provoqué la mort de quelques 100 000 membres des peuples Herero et Nama et est souvent considéré par les historiens comme le premier génocide du XXe siècle. Berlin et Windhoek négocient actuellement une déclaration commune dans laquelle l'Allemagne entend s'excuser des massacres dans son ancienne colonie africaine, mais Berlin considère ne pas avoir à verser de dédommagement compte tenu de l'aide au développement versée à la Namibie depuis son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et la Russie a commencé à alléger son dispositif militaire mobilisé pour la Syrie avec le prochain départ de la région de son groupe aéronaval, ont affirmé aujourd'hui des agences russes citant le chef d'état-major russe Valery Gerasimov. Ces agences ont précisé que cet allègement débuterait par le départ de la région du groupe aéronaval autour du porte-avions amiral Kuznetsov. Et le milieu nigérian, nous parlons de football, le milieu nigérian John Obi Mikel a fait ses adieux aujourd'hui aux supporters de Chelsea, son club depuis 2006, en annonçant sur les réseaux sociaux son départ pour la Chine, nouvel Eldorado du football. Et le club, c'est Tianjin Teda. Obi Mikel, qui n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Antonio Conte et n'a pas joué une seule minute en Premier League cette saison, est le deuxième joueur du club londonien en 2 semaines à rejoindre le championnat chinois.